d'expectative par rapport au Seigneur, car nous aimerions recevoir maintenant sa parole, la seule nourriture dont notre âme, notre esprit a besoin. Nous allons donc incliner nos têtes dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder, Seigneur, ces moments qui nous ont permis de nous prosterner véritablement devant toi et de t'exprimer nos sentiments. Après ce temps consacré à la louange, à l'adoration, Seigneur, après cette opportunité que tu nous as donnée, tu nous as accordée, de pouvoir nous tenir devant toi pour te présenter, Seigneur, nos différents problèmes. Voici le moment, Seigneur, de ta prédication, le moment de ta parole qui arrive. Et nous voulons te prier, ô Dieu, que tu puisses nous aider à nous concentrer, davantage sur toi et sur ta parole. Nous voulons que cette parole, Seigneur, soit bien accueillie, qu'elle puisse trouver auprès de chacun de nous et dans chacun de nous un très bon accueil, car c'est alors que cette parole pourra germer et produire du fruit pour ta gloire. Merci de renouveler notre intelligence, Seigneur, et de nous rendre capables de saisir tout ce qui va venir de ta part. Merci de revêtir ton serviteur, Seigneur, de ta autorité et de ta puissance, afin qu'il puisse proclamer cette parole, Seigneur, avec force, avec persuasion. Oui, parle-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Alors que nous nous asseyons très humblement, Seigneur, avec une grande soif de ta parole, fais-nous du bien. Alors que nous te tendons une oreille attentive, nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons encore continuer avec le thème de la foi. Je voudrais, en tout cas pendant ces quelques dimanches, donner l'occasion à chacun de nous de comprendre ce que la Bible a à nous enseigner à propos de la foi. Et comme nous l'avons déjà vu, eh bien, la foi reste l'élément essentiel, l'élément indispensable dans notre marche avec le Seigneur. Sans la foi, eh bien, toute notre marche, soi-disant avec le Seigneur, ne serait qu'une sorte de religiosité. C'est donc la foi qui va faire toute la différence. C'est donc la foi qui va nous amener à pouvoir nous approprier de la parole de Dieu, la foi qui va nous permettre d'entrer de plein pied dans l'héritage auquel le Seigneur nous destine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de notre cœur comme soit un atout ou un obstacle à la foi. En d'autres mots, nous allons parler de l'état de notre cœur comme étant la condition de l'éclosion et du développement de la foi. Gloire au Seigneur. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu et dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Je voudrais attirer l'attention de chacun de vous donc sur cette parabole du Seigneur ou parabole des terrains. Tout dépend du point de vue à partir duquel, eh bien, on regarde à cette parabole. Marc 4, nous allons lire les neuf premiers versets, nous lisons. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. » comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Et enfin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Gloire au Seigneur. Et puis ensuite, il va lui-même expliquer cette parabole à partir du verset 14. Le semeur, nous dit la parole, Seigneur, sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu, que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, eh bien, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent ou l'accueillent, portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, à un autre 100. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'état de notre cœur est déterminant dans l'ensemencement des graines spirituelles dans notre vie. La condition du cœur est fondamentale. Elle est une condition sine qua non. Si nous voulons, mes amis, voir la foi, la véritable foi biblique, éclore dans notre vie et puis se développer, croître, nous amenant par conséquent à expérimenter la plénitude de la puissance de Dieu. Nous l'avons vu la fois dernière à partir de deux illustrations, de deux histoires que nous trouvons dans la parole de Dieu. Combien, mes amis, on peut approcher le Seigneur? On peut se frotter à l'ambiance qui règne là où Jésus est annoncé, là où Jésus est adoré, là où Jésus est enseigné. Nous avons vu comment, mes amis, on peut, eh bien, plonger dans une atmosphère électrisée par la présence de Dieu et ne pas véritablement le faire avec foi et dans un état de foi. La première illustration de cette vérité, ben, nous la trouvons dans la vie de cette femme. Comme je le soulignais dans le témoignage de tout à l'heure, de cette sœur qui a expérimenté cette guérison, comme cette femme du Nouveau Testament, cette femme a souffert pendant 12 ans, nous l'avons lu. Pendant 12 ans, elle est passée entre les mains des différents spécialistes. Elle souffrait d'un écoulement des sang, d'une perte des sang régulière, récurrente. Et malgré les différents traitements qui lui étaient proposés par les spécialistes de tous bords, eh bien, la Bible nous dit que sa situation ne s'améliora point. Au contraire, elle s'empira. Jusqu'à ce que cette femme entende des choses au sujet du Seigneur. Jusqu'à ce que cette femme entende des choses concernant Jésus. Ce qu'il faisait, mais aussi ce qu'il disait le concernant lui-même. Et tout cela va finir par susciter en lui, par faire naître, par faire clore, mes amis, la foi. Et cette foi va mener cette femme à aller chercher la guérison auprès du plus grand médecin qui soit, le médecin de tous les temps, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et quand elle arrive, eh bien, elle n'était pas seule. Il y avait déjà une foule nombreuse qui pressait le Seigneur, une foule nombreuse tout autour de lui, dont certains arrivaient à toucher le Seigneur, sans que quelque chose ne se passe, ni auprès de ceux qui se frottaient autour du Seigneur, ni en Jésus lui-même. Mais lorsque cette femme arrive, mue, conduite, actionnée par cette foi dans la parole du Christ, cette foi suscitée par tout ce qu'elle avait appris au sujet de Jésus, eh bien cette femme se dit, si je puis seulement, si je peux seulement arriver à toucher ne serait-ce que le pan de sa robe, eh bien je serai débarrassé de mon mal, je serai guéri, cette perte de sang s'arrêterait. Cette femme a foi, elle croit, et quand elle arrive, et quand elle touche le Seigneur, la Bible nous dit au même instant, aussitôt, et comme je l'ai souligné le dimanche dernier, l'évangéliste Marc aime beaucoup cet adverbe aussitôt. Voyez, aussitôt, après avoir touché, eh bien, les vêtements du Seigneur, la Bible nous dit, sa perte en s'arrêta. Et elle ressentit, oh gloire au Seigneur, elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Et au même moment, de manière tout à fait concomitante, eh bien la Bible nous dit, Jésus ressentit, pendant qu'elle ressent la guérison, après avoir touché les vêtements du Seigneur, Jésus ressentit au même moment, en lui, évidemment, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Alléluia. La force des guérisons. La force qui change tout, quel que soit le contexte, quels que soient les éléments pathogènes qui rongent un corps humain, quel que soit le type de virus, de bactéries ou de microbes, la force qui est sortie du Seigneur a été suffisante pour arrêter cette perte de sang, quelle que fût sa source et son origine. Alléluia. Au point où le Seigneur sent, réalise que quelque chose est sorti. Il pose la question, il tourne le regard tout autour de lui, il demande, il pose la question, mais qui a touché mes vêtements? Cette question a paru bizarre aux yeux des disciples, qui tout de suite lui répond, mais Seigneur, tu vois bien qu'il y a une foule nombreuse autour de toi, tu vois bien que les gens te pressent, et tu demandes qui t'a touché. Comme pour dire, plusieurs personnes qui te touchent. Oui, plusieurs le touchaient, mais une seule l'a touché avec foi. Gloire au Seigneur. Cette femme effrayée, tremblante, sachant ce qui venait de se passer, nous dit la Bible, vint se jeter à ses pieds et lui avoua et lui dit toute la vérité. Et sur ce, le Seigneur la regarda avec amour, avec compassion et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Alléluia. « Va en paix et sois guéri de ta maladie. » Cette femme est repartie. Quelle leçon pour nous, mes amis. Quel enseignement une fois de plus sur la foi qui nous montre qu'on peut être dans un lieu comme celui-ci où on invoque le nom du Seigneur, où on commence la réunion avec Jésus, on poursuit la réunion avec Jésus, on termine aussi la réunion avec Jésus, mais sans que quelque chose ne se passe en vous. Voyez-vous, mes amis, c'est la foi. Il ne s'agit pas simplement de venir vous frotter à la bonne ambiance qui souvent est surchauffée par la louange, par l'adoration, et puis repartir avec un certain enthousiasme dans son cœur, en disant, oh là là, j'ai été béni, etc. Mais il s'agit de venir, étant conditionné, disant comme cette femme, si je puis seulement aujourd'hui toucher le Seigneur, mon problème sera résolu. Alléluia. Si je peux seulement aujourd'hui, pas demain, car la foi est, elle se conjugue au présent. Alléluia. Regardez dans l'épître aux Hébreux, lorsque l'auteur inspiré parle de la foi, alors qu'il est en train de passer en revue les héros de la foi qui ont vécu dans le passé, il utilise le présent. C'est par la foi que Noé a fait ceci. C'est par la foi que Moïse a fait cela. La foi se conjugue au présent. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui en est l'initiateur. C'est lui qui fait éclore la foi, c'est en même temps lui qui l'amène à la perfection. Et comme lui s'appelle le grand je suis, donc la foi est. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la foi qui, in fine, reste, mes amis, déterminante. C'est la foi, et la foi seule dont nous avons besoin. C'est la leçon que le Seigneur a donnée à Marthe, la sœur de Lazare. Après avoir perdu leur frère, Lazare, 4 jours plus tard, alors même que sa dépouille se trouvait déjà au tombeau, le Seigneur arrive et il demande à la famille de l'accompagner jusqu'au sépulcre. La famille s'attend peut-être à ce qu'il procède à une cérémonie funèbre, comme nous en avons l'habitude, voyez-vous. Mais quand il arrive, eh bien, il va checker leur foi. Il va tester leur foi. Il demande à ce qu'on ouvre, qu'on note la pierre qui avait été placée devant la grotte. Grotte qui avait accueilli la dépouille de Lazare. Quand le Seigneur dit cela, Marthe, la première, qui quelques instants plus tôt avait confessé que Jésus était Seigneur, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde. Marthe, qui avait fait une très belle confession théologique, très christocentrique, cette fois-ci, quand le Seigneur le confronte à une réalité, pour voir si cette confession était le résultat d'une confiance totale et entière dans lui, Jésus, eh bien cette femme dit, réagit tout de suite, « Non, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours que sa dépouille est là dans cette grotte. » C'est alors que le Seigneur lui dira, « Mais Marthe, ne t'ai-je pas dit ?» Et je voudrais que chacun de nous prenne cette parole pour lui-même. « Ne t'ai-je pas dit, toi ma fille, ne t'ai-je pas dit, toi mon fils, que si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. » Mes amis, on peut jeûner sans la foi. On peut prier sans la foi comme nous l'avons vu. Donc vous voyez, mes amis, c'est la foi qui reste fondamentale, qui reste la base, le soubassement. Voyez ? Et même, comme je l'ai dit le vendredi, même la prière, elle a un lien organique, constitue un tout avec la foi. La vraie prière, c'est celle qui est suscitée par une démarche de foi, oui ou non? Car n'importe qui peut se lever en disant, « Jésus, je t'adore !» sans que cela soit une véritable prière qui monte jusqu'au là devant le Seigneur, sur le trône sur lequel il est assis. Sur ce, les gens vont quand même s'exécuter. Ils vont ôter cette grosse pierre qui fermait ses sépulcres. Et là, le Seigneur se tient devant cette tombe, nous l'avons vu, et dans une attitude de foi, lui qui est l'initiateur de la foi, et qui l'amène aussi à son accomplissement ou à sa perfection, il lève les yeux vers le Seigneur, vers son Père, et dit simplement, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il parle au passé. « Tu m'as... » C'est un passé composé. Voyez, c'est un temps qui exprime une action passée. Quand il dit « Tu m'as exaucé », Lazare est encore au tombeau. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Voyez, le corps est encore là, mais lui voit Lazare déjà debout. Et puis il dit, « Père, je savais que tu m'exauces toujours. » Et là, il va pousser un cri. Un cri va retentir. Un cri puissant que la mort n'a pas pu arrêter. Un cri qui est allé au-delà du temps, au-delà de l'espace, qui est allé jusque dans le séjour des morts. Et ce cri est arrivé, et cette parole créatrice qui appelle les choses non existantes comme existantes, cette parole a franchi Lazare des liens de la mort, cette parole l'a prise et l'a ramené en vie. Alléluia. Et Lazare a retrouvé la vie. Mes amis, Dieu est capable de tout. Gloire au Seigneur. Donc nous l'avons vu, la foi du cœur. C'est la foi que le Seigneur suscite dans chacun de nous, et ce par son Saint-Esprit. La foi, elle vient du Seigneur. Je vous rappellerai, et j'aimerais que vous méditiez régulièrement sur Hébreux 12, verset 2, où la Bible nous encourage à nous tourner vers le Seigneur, à poser nos regards sur lui, et puis la parole de Dieu nous présente qui est chez Jésus, pourquoi nous devons poser nos regards sur lui. Eh bien, parce qu'il est l'initiateur de la foi, mais aussi l'accomplisseur de la foi, c'est-à-dire celui qui la suscite et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Puisqu'il en est ainsi, alors la condition du cœur est déterminante. Alléluia. Nous venons de lire cette parabole du semeur, ou la parabole des terrains, comme je vous ai dit, selon le point de vue à partir duquel on se tourne vers cet enseignement du Seigneur. Et là, nous voyons ce semeur qui se prépare à aller ensemencer la terre. Il a avec lui des graines pour aller. Et chaque graine a un potentiel extraordinaire. Dans chaque graine, il y a la vie. Alléluia. Il sort et il va jeter. Il va ensemencer le champ. Gloire au Seigneur. Et c'est là que nous allons voir, et vous l'avez tout de suite compris, que la condition du cœur, l'état de notre cœur est fondamental si nous voulons expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Le Seigneur utilise donc cette parabole du semeur. Comme il en avait l'habitude, hein, il a beaucoup enseigné, il a beaucoup prêché en recourant à la parabole. Et en utilisant des images de la vie courante, des images qui évoquent des scènes de la vie courante pour pouvoir transmettre des vérités spirituelles, pour pouvoir illustrer des versets intemporels. Il utilise une image qui était tout à fait connue, familière aux gens de son époque. Il n'était pas rare de croiser un semeur avec son sac rempli de semences en route vers son champ pour aller l'ensemencer. Voyez. Donc, il utilise cette parabole, et je vais vous dire une chose, il y a dans cette parabole tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Que chacun de nous comprenne que ça ne sert à rien de courir ça et là tant que la condition de notre cœur est ce qu'elle est aujourd'hui. Tant que notre état moral et spirituel, tant que notre cœur, mes amis, est rempli de toutes sortes de sentiments négatifs, d'animosité, de mépris, de jalousie, de méchanceté, de calomnie, de cupidité, de convoitise, de toutes ces choses-là, il sera difficile, quelle que soit la capacité que nous avons à accueillir la parole de Dieu, quelle que soit, mes amis, la capacité cérébrale que nous avons à assimiler, à saisir tout de suite la parole de Dieu, il sera difficile, si pas impossible, que cette parole finisse un jour par faire susciter la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il utilise donc la parabole. Pour ceux qui aiment beaucoup l'étymologie des mots, le sens grec, vous avez là deux mots. Vous avez la préposition para et puis lo, c'est-à-dire mettre en parallèle. Voilà, il prend deux choses de la vie physique, terrestre, temporelle, pour les mettre en parallèle avec les vérités spirituelles. Le semeur sort pour semer. Il a une vision. Il ne sort pas par aventure. Il connaît la capacité, il connaît le potentiel qu'il y a dans la semence. Autrement, il ne sortirait pas, oui ou non. C'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose de vivant, quelque chose d'efficient, quelque chose de productif, qu'alors le semeur de cette parabole sort pour aller semer. Et pendant qu'il sème, eh bien, il se trouve que la semence, les différentes graines qu'il avait, vont tomber sur différents terrains. Selon le terrain sur lequel ou dans lequel cette semence va donner, eh bien, soit elle va se stériliser et demeurer improductive, ou soit alors, selon la nature du terrain, selon la nature du sol, cette semence va germer et produire du fruit, et encore beaucoup de fruits. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première partie tombe, nous l'avons lu, le long du chemin, au bord du chemin. Voyez, la même semence. La deuxième semence, la deuxième partie plutôt, va tomber dans un endroit pierreux, dans un sol pierreux, sur de la rocaille. Voyez-vous ? Rocaille sur laquelle il n'y a qu'un peu de terre. Un peu de terre et en dessous, ben, c'est de la roche calcaire. Et sur une telle roche, une semence ne peut jamais germer. Elle peut lever, mais ne pourra jamais avoir des racines qui lui permettent de pouvoir aller chercher, mes amis, tous ces nutriments, tous ces sels minéraux dont la semence a besoin pour pouvoir germer et puis ensuite devenir un tendre plant ou une petite plante, une plante qui va croître, qui va monter, qui va finir par, eh bien, produire du fruit, et du fruit, beaucoup de fruits pierreux. Premièrement, le long du chemin. Deuxièmement, sur un sol pierreux, sur un sol rocailleux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Comme je viens de le souligner, il y avait juste un peu de terre, et si on ne connaît pas la géographie, ou du moins la topographie, la nature du sol, on peut être trompé. On voit qu'il y a là un peu de terre, on jette la semence, mais alors qu'en réalité, en dessous de cette terre, qui paraît fertile, qui pourrait même l'être, il y a une roche calcaire. La troisième partie va tomber parmi les épines, parmi les ronces. Comment voulez-vous qu'une semence puisse s'épanouir, éclore, entrer en floraison, fleurir et produire, bourgeonner et produire du fruit dans un endroit rempli des ronces, rempli d'épines? Et enfin, la dernière partie tombe dans la bonne terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons qu'avec la même semence, avec le même potentiel, selon l'endroit où cette semence va tomber, eh bien, elle va soit lever et tout de suite être asséchée par le soleil, parce que, étant tombée sur un sol en dessous duquel il y a de la roche calcaire, soit tout le long du chemin, avec tous les dangers que cela comporte, soit parmi les épines, soit alors dans la bonne terre. Commençons avec la première partie qui est tombée le long du chemin. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la récolte dépendra non seulement de la graine qui a été semée, mais également de la nature du terrain. La nature du sol. Vous voyez, mes amis, et je voudrais que chacun de nous comprenne pourquoi la Bible nous encourage à mener une vie de sainteté. Pourquoi la Bible nous encourage à nous débarrasser de tous ces sentiments négatifs, de toutes ces pensées négatives, car ce sont de véritables obstacles à l'éclosion, au développement et à la croissance de la foi. Et quand il n'y a pas de foi, eh bien, nous nous retrouvons avec une religion sans aucune substance, comme une coquille vide. Et le christianisme, dans ce cas, ne serait pas différent de toutes les autres croyances religieuses. Le long du chemin, c'est l'explication que le Seigneur donne. Eh bien, les résultats. Quels sont les résultats? Eh bien, premièrement, la semence qui tombe le long du chemin, malheureusement, n'a pas l'occasion ou ne peut pas avoir la grâce de pouvoir germer. Pourquoi? Eh bien, parce que les oiseaux du ciel, les corbeaux de tout genre, n'attendent que ça. Ils vont venir, ils vont picorer toutes ces graines et les manger. Fini. Voilà le premier obstacle. C'est sûr, le long du chemin. Et les oiseaux, ce ne sont pas les oiseaux qui manquent. Hein. Ce ne sont pas les corbeaux qui vont manquer. Ils viendront forcément. Tu n'auras pas besoin de les appeler. Ils vont s'inviter, car ils observent, car ils surveillent. Ils sont toujours là pour prendre cette semence. Le deuxième sol, le sol rocailleux, c'est-à-dire la semence qui est tombée sur la rocaille, où il y a à peine un peu de terre. Eh bien, la Bible nous dit que la semence lève aussitôt, mais comme elle n'a pas l'occasion de pouvoir avoir des racines profondes qui lui permettent de croître aussi bien dans le sol que vers l'extérieur, elle va lever, va être brûlée par le soleil. C'est une tendre plante qui sort un tout petit peu, mais que le soleil va tout de suite brûler, et puis plus rien. La troisième partie de la semence tombe parmi les épines, parmi les ronces. La même chose, les ronces, les épines, eh bien, montent, finissent par étouffer la semence, lui empêchant ainsi de produire du fruit. Ces ronces, ces épines rendent donc tous ces grains improductifs. Et enfin, il y a la semence qui tombe dans la bonne terre. Celle-là va prendre racine. Alléluia. Celle-là va pousser. Elle va rapporter une abondante récolte, une abondante moisson. Un grain va produire 30, un grain. Un autre va produire 60, un autre 100. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, le Seigneur lui-même, lui le docteur par excellence, lui la parole incarnée, nous en donne l'explication. À partir du verset 14, eh bien, il explique quels sont ces quatre terrains qui ont été ensemencés, sur lesquels la semence est tombée. Mais avant cela, il commence par préciser que le semeur sème quoi? La parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu est une véritable semence. Mes amis, la parole de Dieu est créatrice en elle-même. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, mes amis, c'est comme une semence. Elle est petite, mais elle comporte la vie à l'intérieur. Alléluia. Le semeur sème la parole. Quand nous proclamons l'évangile, eh bien, nous sommes en train de répandre les graines spirituelles. Et chaque graine est porteuse de vie. Dans chaque graine, il y a un potentiel de la puissance de Dieu. Et ça, nous devons le savoir. Quand nous annonçons, quand nous évangélisons, quand nous enseignons, eh bien, mes amis, nous faisons le travail des semeurs. Nous ensemençons les cœurs. Nous jetons cette semence et les gens vont l'accueillir. Mais selon la nature du terrain, cette semence finira soit par produire une grande récolte, une grande moisson, ou soit alors elle demeurera stérile, improductive. Et les quatre terrains correspondent donc à l'état, à la condition des cœurs des auditeurs, de ceux qui entendent la parole, de ceux qui sont censés l'accueillir. Donc il y a là divers types d'auditeurs qui tous vont avoir une réaction en fonction de la nature de leur cœur. Encore une fois, l'état de notre cœur reste déterminant. La condition sine qua non pour qu'enfin la foi naisse et nous amène à Jésus pour toucher ne serait-ce que le pan de sa robe, cette foi-là va dépendre, mes amis, de la condition de notre cœur. Voilà pourquoi la Bible n'arrête pas de nous encourager, mes amis, de mener une vie de sanctification, de nous débarrasser de tout ce qui est péché. car il y va de notre foi. Et sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Voyez. La première partie, la parole qui tombe le long du chemin, sur le bord du chemin, eh bien, comme lui-même le dit, ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée. Les gens entendent cette parole avec de cœurs incrédules, avec de cœurs durs, avec de cœurs insensibles, puisqu'ils sont remplis de toutes sortes d'a priori, toutes sortes de préjugés. Pour eux, Jésus, c'est un religieux comme n'importe quel religieux. Voyez, beaucoup sont sceptiques. Et pourtant, ils ont tout le temps le nom de Jésus dans la bouche, oui ou non? Voyez, mais pour eux, Jésus, c'est simplement une religion. Comme il y en a tant d'autres, et comme il y en a eu à travers les âges. Ils sont là, le long du chemin. Ils reçoivent la parole, mais comme les cœurs sont fermés, pour diverses raisons. Comme je le disais, il y a des a priori, mon Jésus, etc. Des préjugés de tout bord ou de tout genre. Eh bien, la parole reste là. On est sur le bord du chemin. Et cette semence qui tombe, eh bien, ne va pas rester là-bas, pas du tout. La Bible nous dit, et c'est le Seigneur lui-même qui le dit, Satan vient, il va manger cette parole. Il va enlever cette parole. Vous voyez pourquoi nous prions? Pour que le Saint-Esprit ouvre le cœur et les rende capables d'accueillir la parole de Dieu. L'ennemi de nos âmes rôde, mes amis. Ne soyez pas étonnés de voir qu'après autant d'exhortation, après autant d'encouragement à partir de la parole de Dieu, eh bien votre interlocuteur reste toujours le même. Il reste fermé. Il faut une action de l'esprit, mes amis, pour briser ces rocs-là. Autrement, vous jetez la semence sur le bord du chemin. Et l'ennemi vient, il enlève, il détruit, car il connaît la puissance de la parole. Beaucoup sont sur le bord. Et rester sur le bord, dans de telles conditions, veut dire que nous ne pourrions jamais nous attendre à quelque chose. Nous pourrions suivre des séminaires. Nous pourrions demander aux plus grands prédicateurs qui soient, aux hommes de Dieu, quels qu'ils soient, de prier pour nous, pour que la foi croisse, sans que quelque chose ne se passe. Oui, pendant qu'ils nous imposent la main, nous pouvons ressentir quelque chose. Il y a des gens qui sont trop émotifs. Pour peu qu'on leur impose la main, les voilà qui tombent. Voilà. D'autres, ils sont là très rationnels. Ils vous regardent comme un champ de faïence. Voilà. Vous imposez les mains, quelquefois ils ne ferment même les yeux. Ils vous regardent. Oui, mais faites, priez. Ne regardez pas au feedback. Parce que quelquefois nous sommes un peu distraits. Nous pensons que celui qui est dans le fond là, qui à chaque fois que le pasteur dit quelque chose, amen, très enthousiaste, alléluia. Et celui-là qui a compris, il peut être sur le bord du chemin. Ouais. Ne soyez pas de ceux-là. J'ai déjà eu à vous le dire, soyez de ceux qui sont sur l'autoroute, car font l'histoire ceux qui sont sur l'autoroute. Alléluia. Et non pas ceux qui sont sur le bord en train de contempler les gens. Vous voyez? Le bord, c'est ça l'essentiel. Quittez le bord. Voilà donc la première catégorie. Vous semez, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, le cœur est dur, le cœur est endurci. C'est pourquoi nous devons toujours prier. C'est pourquoi nous avons une intercession ici qui tourne régulièrement. Parce que la prière doit nous précéder auprès de nos auditeurs. Alléluia. La prière doit nous précéder. Elle doit préparer les cœurs afin que lorsque nous prêchons la parole, eh bien qu'elle ne tombe pas le long du chemin, mais qu'elle soit plutôt accueillie avec foi. Gloire au Seigneur. Les autres entendent, les autres, c'est-à-dire l'autre partie, qui elle va tomber dans un endroit pierreux, où il y a beaucoup de pierres, beaucoup de rocaille ou rocailleux sur une terre rocailleuse, sur un sol pierreux, eh bien le Seigneur nous dit, ceux-là, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Oh, quelle parole formidable. Ils sont touchés. Quelquefois, ils pleurent, n'est-ce pas? La parole leur fait du bien pour un temps. D'ailleurs, l'expression utilisée, c'est « ce sont les gens d'un moment ». L'enthousiasme est là tant qu'ils sont exposés à la parole. Vous voyez? Donc, mais cette parole ne trouve pas des racines solides pour pouvoir germer. Et le Seigneur nous dit, eh bien, sur cette terre remplie de pierres, sur cette rocaille, il n'y a pas beaucoup de terre. La parole lève, mais aussitôt, elle est brûlée par le soleil et n'a pas le temps de germer. Vous voyez, ce qui va briser cette roche calcaire en nous, dans nos cœurs, pour qu'il y ait de plus en plus de la terre fertile, c'est notre vie de sainteté. Alléluia. Plus nous menons une vie de sanctification, plus, mes amis, nous donnons le temps au Seigneur de travailler nos cœurs, de briser cette roche et de nous remplir de la terre fertile, afin que nous soyons en mesure d'accueillir cette parole avec foi, avec confiance, et voir cette parole produire des racines et devenir une plante produisant beaucoup, beaucoup de fruits. Et ceux qui n'ont pas des racines solides, à peine une petite couche de terre, la Bible nous dit seuls, évidemment, il y a l'enthousiasme. Oh, gloire à Dieu! Oh, le Seigneur est bon! Il jeûne, il crie, il parle en langue et tout ça, mais il n'y a pas de fondement solide. Aussitôt qu'il y a une petite épreuve, aussitôt que survient l'affliction, la persécution, la tribulation, la Bible nous dit, eh bien, il finit par chuter. Il trouve dans la parole une occasion de chute. Ce n'est qu'après qu'il pleure. Oh, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi cela m'est arrivé? Vous voyez? Donc, les gens d'un moment, des gens qui sont superficiels, et là, c'est impossible que la parole germe. D'autres entendent la parole, la troisième catégorie, la parole qui tombe parmi les ronces et les épines. Ils entendent la parole, ils la reçoivent, ils l'accueillent, mais au milieu de beaucoup d'épines. Et Jésus dit, ceux-là, ce sont ceux qui sont remplis de soucis distrayants de ce monde. Ils se soucient que de choses de la terre. Voyez, les soucis de ceci, le souci de cela. Il y a la séduction des richesses. Il faut absolument s'enrichir. Il faut remplir ce grenier. On en a déjà 4-5 greniers remplis, ce n'est pas assez. La cupidité, la convoitise. Voyez, des soucis inutiles. Tant d'autres convoitises. Ils sont distraits par le souci. Oui, c'est bien de se soucier de ceci ou de cela. Nous sommes encore sur cette terre, nous devons avoir nos pieds ici sur terre. Vous voyez, l'avait dit, je crois que c'est Theodore Roosevelt, un des présidents américains, il avait dit ceci. Et moi, je voudrais que chacun de nous comprenne. Ça, c'est un enseignement pour chacun de nous. Même, surtout chez nous ici, où il y a toutes sortes d'agitations. Il a dit ceci. Fixez vos yeux sur les étoiles, mais rappelez-vous d'avoir les pieds sur terre. C'est bien dit, hein? Voyez? Les étoiles sont là, scintillantes, nous en voulons. Les étoiles du bonheur, de la richesse, de ceci. Mais attention, à force de trop regarder les étoiles, on oublie qu'on est sur terre. Donc, on se laisse distraire par toutes sortes de choses. Mais l'essentiel, c'est de regarder à son cœur. Alléluia. Tous ils sont là. Quand est-ce que je vais me marier? On en fait tout un problème, tout un foin autour du mariage. Voyez? Et petit à petit, ben, la convoitise s'empare de nous. Et puis, à chaque fois, nous voyons une belle vie. Ah, Seigneur, c'est peut-être elle. Voilà. On commence à prier en fonction d'elle. Et puis il y a une nouvelle choriste qui atterrit. Ah oui, non, non, Seigneur, c'est celle-là. Voilà. On va de convoitise en convoitise avec de telles pensées. Eh bien, vous vous laissez distraire. Cherche la volonté du Seigneur. Alléluia. Cherche ton Dieu de tout ton cœur et il finira par te donner ce que ton cœur désire. Tourne-le d'abord. Voyez, être distrait. Vous aimez les histoires, non? C'est comme l'histoire de trois hommes qui se sont retrouvés, trois amis, enfin des amis. Ils se sont retrouvés un jour à discuter sur l'ancienneté de leur profession et la noblesse de leur profession. Trois. Il y avait un chirurgien, il y avait un ingénieur et il y avait un homme politique. Alors chacun, il discute, chacun veut prouver à l'autre que son métier, sa profession est plus ancienne, plus noble. Le premier qui prend la parole, c'est le chirurgien. Il dit, mais quand on regarde la Bible, pour donner une femme à l'homme, Dieu a dû faire dormir Adam, non? Et lui a fait une opération chirurgicale pour faire sortir de la côte de l'homme cette belle femme. Donc vous voyez, mon métier là de chirurgien est le plus ancien. C'est la profession la plus ancienne, mais aussi, et par conséquent, la plus noble. L'ingénieur dit non, ce n'est pas vrai. Avant que le Seigneur fasse l'opération, il a créé le monde, mais il y avait le chaos. Mais Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur, en sage ingénieur, à partir de ce chaos, il a mis de l'ordre. Il a placé les animaux selon leur espèce, chacun dans son milieu, les poissons dans le milieu aquatique, les animaux, etc. Donc, tu vois, ce n'est pas la chirurgie qui est la première profession. L'homme politique observe. Quand l'ingénieur termine, il le regarde avec un sourire condescendant. Il dit, oui, oui, chirurgien, ingénieur. Mais, puisque toi, l'ingénieur, tu dis qu'il y avait les chaos, qui l'avait produit? Qui avait créé ces chaos? Vous avez compris. Simplement pour décrisper un peu l'atmosphère. Donc, on passe de temps pour discuter de la noblesse, de l'ancienneté, de soucis, etc. Et puis, résultat, on ne se soucie guère de son cœur. Voyez-vous, on se retrouve avec toutes sortes d'épines. D'épines de convoitise, d'épines de jalousie, d'épines de mépris dans les cœurs vis-à-vis des gens. De mépris d'animosité, plutôt des épines ou des ronces d'animosité, des ronces de tout genre, des inquiétudes, la convoitise par rapport aux richesses. Voyez. L'homme n'est jamais satisfait, vous savez ça? Il n'y a rien sur cette terre qui puisse satisfaire l'homme. Vous pouvez donner à quelqu'un tout ce dont il a besoin, mais cela n'arrivera jamais à combler tout son cœur. Car il y a un vide dans le cœur de l'homme, comme l'a dit Pascal, qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Vous pouvez donner tous les biens matériels. Vous pouvez même faire don de telle ou telle autre banque à la personne. Avec tous les actifs, il ne sera jamais content. Il trouvera que bon, aujourd'hui c'est la banque X, mais je dois acquérir aussi la banque Y. Vous voyez, l'homme n'est jamais... Le dimanche dernier, je crois que je ne vous ai pas raconté l'histoire de cet homme par rapport à la convoitise. Je vais terminer par là. Par rapport à la convoitise, il demande à Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ceci. Je voudrais avoir la plus belle villa qui soit. Alors l'autre lui donne une condition. Très bien, je vais te donner ça. Mais à condition qu'à chaque fois que je te donne une chose, ton voisin en reçoit deux. Ah, très bien, Seigneur. Belle villa, hop. Il se réjouit. Au même moment, le voisin en a deux. Ça ne l'a pas satisfait. Il demande une belle écurie avec des beaux chevaux, des belles juments, des beaux étalons, etc. Des chevaux noirs, blancs et tout ce que vous voulez. Ben, il reçoit. Gloire à Dieu. Au même moment, le voisin en reçoit des écuries. Ouais. Il demande ceci, l'autre reçoit deux. Eh bien, n'étant pas satisfait, parce que souvent on se compare toujours. Vous savez, si vous êtes sur une île, on vous donne nos petits ketchs là, comment? Ces petites voiturettes. Tu es seul, tu n'as pas à se comparer. Tu vas rouler sans aucun problème. Tu vas aller visiter les tortues d'un bout à l'autre de l'île, sans aucun problème. Mais si sur l'île quelqu'un débarque avec une belle Peugeot, dit « Ah, moi j'ai une petite basket. » Commence. Si tu es seul sur l'île avec ta femme, c'est la plus belle. Oui ou non? Seul avec ton homme, c'est le plus beau. En dehors de lui, tout n'est que... Qu'est-ce que j'ai dit? Tout le monde est beau. Il n'y a pas de lait. Voyez. Eh bien, en fin de compte, cet homme-là, vous savez ce qu'il a demandé après? Il dit, Seigneur, maintenant, je te demande que je devienne borgne. C'est-à-dire que je perds un œil. Résultat, si j'en perds un, l'autre en perd combien? Donc vous voyez, on n'est jamais satisfait. Alors pour revenir, les convoitises, les soucis, tout cela étouffe la parole de Dieu. Nous devons déposer tout ça au pied de la croix. Si nous sommes dans un besoin, adressons-nous au Seigneur. Alors mon frère et ma sœur, la foi ne peut pas naître là où il y a les épines. La foi ne peut pas naître lorsque la parole tombe sur le bord du chemin. La foi ne peut pas naître là où il y a un peu de terre et en dessous, il n'y a que roche calcaire. La foi ne peut pas naître dans toutes ces conditions. C'est lorsqu'il y a de la bonne terre. Lorsqu'elle est reçue, elle finit par produire du fruit. Une graine qu'on a reçue en produit 30. Une deuxième graine en produit 60. Parce que la foi croît. La foi est dynamique. Pourquoi? Parce qu'elle est intimement liée à la personne de Jésus. Comme c'est Jésus qui l'a fait naître. Mais c'est aussi Jésus qui va l'amener à son accomplissement. Il n'y a que nous qui pouvons mettre un frein. Sinon, si avec Jésus, nous pouvons aller avec une foi qui nous amène jusque sur Mars. Nous arrivons à Mars, il dit non, il y a encore Neptune là-bas. Nous allons là-bas, il dit non, il y a Uranus, et ainsi de suite. On peut même aller au-delà, on quitte notre galaxie, on va ailleurs. La foi. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de limite à la foi. Alléluia. Alors, mon frère et ma sœur, l'obstacle à la foi, c'est l'état de ton cœur. Avant de regarder à gauche, à droite, de regarder à celui qui est devant toi ou derrière toi, regarde d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Car ce qu'il y a à l'intérieur de toi va déterminer ce que tu seras à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, la condition de ton cœur, faire en sorte que soit la semence produise la foi, ou alors les épines l'étouffent. Nous allons incliner nos têtes de prière. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Merci de nous aider à travailler nos cœurs, car il y va, Seigneur, du développement, il y va de l'éclosion, du développement et de la croissance de notre foi. Seigneur, à chaque fois que nous recevons ta parole, eh bien que nos cœurs soient comme ce terrain fertile, où il n'y a ni pierre rocailleuse, où il n'y a ni ronce, ni épine, Seigneur, mais que terre fertile qui accueille ta foi avec joie, qui accueille ta foi, et plutôt ta parole. Et enfin, voir cette parole produire la foi qui va nous amener à expérimenter des miracles dans notre vie. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour tout. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui passent plus leur temps, Seigneur, avec toi, afin que tu nous montres l'état de notre cœur, où nous en sommes avec toi, Seigneur. Et s'il y a encore le péché, s'il y a la convoitise en nous, la cupidité en nous, Seigneur, que tu nous aides à nous en débarrasser. Seigneur, s'il te plaît, pose ta main et libère-nous, afin que nous puissions trouver notre plein contentement en toi et dire avec ton apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que nous sachions, Seigneur, être contents, être heureux, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Car le vrai contentement se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Merci Jésus de bénir cette parole. Mais merci également, Seigneur, de poser ta main sur les offrandes alors que les paniers vont circuler. Nous te bénissons pour cette opportunité merveilleuse que nous avons de pouvoir te manifester notre amour, mais également l'amour pour ton œuvre en la soutenant, ô Dieu, par nos dons, par nos offrandes, par nos dîmes. Alors que le panier circule, veille bénir tous ceux qui vont, Seigneur, y déposer quelque chose. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.